Mikus pastil.
Mikus pastil. Oh, mikus qui se passe.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 21 mars. Aujourd'hui, on va parler du CETA, le Comprehensive Economic and Trade Agreement, un accord commercial qui fait son retour sur le devant de la scène politique. On parlera aussi de la fertilité à l'échelle mondiale, qui connaît un recul assez alarmant, d'une nouvelle arrestation de Cédric Herrou et de certains de ses camarades par la police à la frontière franco-italienne, et quelques nouvelles de ce projet de méga-église en Ardèche de Donald Trump, qui a l'air d'être un petit peu avec des soucis financiers. Et on va commencer aussi par revenir sur les 1 an de la mobilisation de Sainte-Soline à l'occasion de ces grands rassemblements qui avaient lieu contre les méga-bassines. Et oui, une année s'est écoulée depuis la mobilisation de mars 2023 à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Si ce week-end d'action avait marqué l'histoire de la lutte pour la défense de l'eau par son ampleur et sa détermination, il a aussi été marqué par plus de 200 blessés, dont plusieurs très grièvement. Le collectif Bassine Non Merci tient donc à marquer l'anniversaire de cette lutte. La répression policière de cette manifestation contre les méga-bassines avait été très dure à Sainte-Soline ce week-end-là. Un rapport d'observateur de la Ligue des droits de l'homme avait conclu de son côté un usage disproportionné des armes. Il y avait même eu quelques gros dysfonctionnements du côté de la police qui avaient été observés aussi. Depuis cette date, donc, le collectif Non Merci, Bassine Non Merci observe que plus un projet d'accaparement de l'eau n'échappe à la vigilance de ses riverains et à leur mobilisation. Cette prise de conscience collective de l'urgence à agir est une réussite, obtenue grâce à des années de lutte et à la puissante convergence qui s'est produite ce week-end-là. En effet, il y a eu un avant et un après. Maintenant, toute affaire de bassine a tout de suite un retentissement médiatique assez large. 1 an donc après cette mobilisation, qu'il qualifie d'historique, ces collectifs anti-bassines en lutte, qui sont très nombreux sur le territoire français, appellent à se rassembler. Alors il y en aura évidemment dans le territoire des Deux-Sèvres et de la Vendée, mais aussi tout autour de la France. Ça se passe donc du 22 au 31 mars. Des tables rondes, des projections et des moments commémoratifs s'organisent dans toute la France pour rappeler la détermination à défendre les territoires et le partage de l'eau. Ils appellent notamment à organiser des méga-booms, 5000 méga-booms devant les préfectures, gendarmeries, mairies et commissariats de tout le pays. 5000 méga-booms en écho à ces 5000 grenades, un chiffre qui avait été avancé, 5000 grenades qui auraient été tirées sur le week-end du mois de mars 2023 à Sainte-Soline par les policiers et les gendarmes. Faisons détonner notre créativité, écrivent-ils, avec des ballons de baudruche, instruments, chants, pétards, méga enceintes. Des rendez-vous sont donnés un petit peu partout en France, notamment ce week-end avec des tables rondes, des discussions, des films. Et pour ce qui est du rendez-vous donc de ce lundi 25 mars au niveau national, c'est un petit peu partout en France que ça se passe. Et j'ai une carte qui vous permet justement d'aller voir si vous avez envie d'aller discuter ses opposants et de les rencontrer autour d'un rassemblement. Il y en aura notamment devant le commissariat de la place de la Comédie à Montpellier, donc à 19h30, ce lundi 25 mars. Le CETA, CETA, stop, vous savez, il y a des tags un petit peu partout comme ça qui fleurissent depuis pas mal d'années, sur les bords des routes notamment. Eh bien, en pleine campagne pour les élections européennes et sur fond de crise agricole, eh bien, il n'y a pas de meilleur moment donc pour réimposer ce sujet dans les débats. Ça fait 6 ans qu'il a déjà été adopté par le Parlement européen, ce fameux CETA, le Comprehensive Economic and Trade Agreement, donc accord économique et de commerce compréhensif, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il est de retour sur le devant de la scène. Les sénateurs français doivent en effet se prononcer aujourd'hui sur la ratification de ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. un traité très controversé depuis longtemps. Et c'est un texte de 2344 pages quand même qui le compose, dans lesquels sont prévus notamment la suppression des droits de douane sur 98% des produits échangés entre l'Europe et le Canada, mais également la réduction des réglementations et un tribunal spécial pour les entreprises européennes qui investissent au Canada et vice-versa. On va détailler un petit peu tout ça. En tout cas, vous l'aurez compris, une grosse mobilisation qui se remet en place contre la ratification de ce traité. Une lettre ouverte a été rédigée par une trentaine d'organisations de la société civile. Et dans cette lettre est rappelé en quoi le traité serait néfaste à la fois pour l'agriculture européenne, mais aussi pour la santé et pour l'environnement. Déjà en réduisant énormément les barrières tarifaires entre le Canada et les pays de l'Union européenne, donc le côté commercial, l'accord va intensifier la mise en concurrence de systèmes productifs nationaux, de la concurrence entre systèmes agricoles souvent bien différents. Cela entraînera une pression à la baisse sur les prix agricoles et les normes des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs, et encourageant fortement un modèle d'agriculture intensive. Si 90% de cet accord est déjà entré en application provisoire depuis septembre 2017, la mise en œuvre effective et totale de ce texte demande donc la ratification des États membres de l'Union européenne, car une partie des clauses de l'accord, qui portent sur notamment le côté investissement et le règlement des différends quand il y a justement des cas qui sont traités devant la justice, cette partie-là, elle relève de la compétence des États. Ça fait donc 6 ans et demi plus tard qu'on est sur ce dossier. 18 États sur 27 ont donné leur approbation, et seul Chypre a dit non. Les gouvernements qui restent font traîner le processus, justement. Et c'est le cas de la France, où les députés ont adopté de justesse ce texte, c'était en juillet 2019. Ça s'est joué à une cinquantaine de voix près sur 500. Et à présent, c'est donc le Sénat qui a sa carte à jouer. C'est le groupe communiste qui a décidé justement d'inscrire cet accord de libre-échange au programme de sa niche parlementaire. Vous savez, c'est un petit procédé dans lequel on peut demander à discuter sur un sujet précis au Sénat. On ne peut pas en avoir tous les jours non plus des niches parlementaires. D'ailleurs, le groupe communiste a préféré parler de ça plutôt qu'une de ses propres propositions de loi. Évidemment, l'idée, c'est de faire rejeter cet accord. C'est le sénateur Sébastien Gay, sénateur communiste, qui a lancé justement cette manœuvre. Il explique qu'il ne s'agit rien de moins que d'une question démocratique, dit-il. Le Parlement ne peut pas être privé de vote sur des traités de libre-échange. Alors, comment est-ce qu'il compte justement parvenir au rejet de ce texte? Et c'est là que c'est un petit peu étonnant ce qui se passe. C'est qu'il y aurait une alliance gauche-droite de circonstances, donc justement, juste pour cette question-là, qui pourrait être une première, avec les Républicains, la première force politique au Sénat, le groupe LR, qui semble aussi déterminé à s'y opposer, puisque leurs collègues députés ont déjà voté contre en 2019. Donc les LR sont contre et ils devraient s'allier avec la gauche sur ce coup-ci, avec même les communistes. Il nous faut des accords de libre-échange, mais certainement pas aux dépens de notre souveraineté, notamment alimentaire. C'est la ligne politique, justement, soutenue par le chef des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Et les autres groupes de gauche, eux, devraient suivre la route. Donc, il y aurait peut-être une chance que ça soit justement retoqué au Sénat. Si ça arrive, que la fameuse chambre haute rejette ce texte, le sénateur communiste promet un coup de tonnerre politique. Il pense en effet que ça enverrait un message très fort bien au-delà de la France, à savoir que les traités commerciaux ne peuvent plus s'appliquer de cette façon. Par exemple, la négociation aussi avec le Mercosur qui est en cours. Le Mercosur, ça relie l'Union européenne et les pays sud-américains, et cet accord n'a pas été ratifié par la France. S'il était refusé, ce texte retournerait donc ensuite en seconde lecture à l'Assemblée nationale, qui pourrait aussi voter contre, puisque le camp présidentiel qui porte le projet n'y dispose pas d'une majorité absolue. Mais même si le Parlement refusait l'accord, le CETA, je vous le disais, est déjà appliqué et il continuerait à s'appliquer donc encore partiellement, comme c'est toujours le cas. Pour le suspendre vraiment, il faudrait que le gouvernement français notifie à Bruxelles, donc à l'Union européenne, la décision de son Parlement, et il n'est pas obligé de le faire. C'est comme ça d'ailleurs que Chypre, elle, a pu officiellement rejeter le CETA. Le symbole serait malgré tout assez puissant. C'est pourquoi d'ailleurs la Confédération paysanne ou le collectif Stop TAFTA, qui a un traité qui ressemble au CETA, mais qui nous lie avec les États-Unis. D'ailleurs, le TAFTA, les négociations ont été gelées en 2016. Eh bien, ces collectifs et la Confédération paysanne organisent donc des rassemblements devant le Sénat le jour du vote, aujourd'hui, pour demander sa non-ratification. Si on revient un petit peu à ce qu'il y a dans ce traité, hormis les questions commerciales, les normes qui régulent l'agriculture, qui sont négociées entre l'Union européenne et le Canada, seront moins restrictives que celles imposées aux agriculteurs français. Donc ça va créer un déséquilibre à l'avantage du système canadien. Par exemple, au Canada, on utilise toujours plus de 40 molécules de pesticides qui sont interdites en Europe. Tandis que la hausse des échanges commerciaux provoque par ailleurs l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. La mondialisation, ça va rarement avec le côté sobriété carbone. Les opposants donc, à cet accord pointent également l'absence de protection adéquate contre les impacts négatifs sur le climat de l'accord, à savoir donc certainement des énormes volumes de marchandises échangées principalement par bateau. Et enfin, le mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et les États, les différents au niveau commercial et juridique, ce mécanisme de règlement est très très critiqué. En effet, ce sont des tribunaux privés qui se chargent de trancher, et en instituant notamment un tribunal d'arbitrage qui permet à des investisseurs étrangers de poursuivre un État ou une décision de l'Europe si cette décision publique compromet leurs attentes légitimes en termes de retour sur investissement. En gros, une boîte, par exemple, canadienne ou américaine qui s'installe en France ou en Europe et qui se retrouve un petit peu gênée par des lois prises entre-temps par le gouvernement, soit du pays, soit de l'Europe, eh bien, peut demander. Ils disent qu'ils avaient prévu de se faire tant de millions cette année-là et qu'à cause de cette loi et de ces changements de politique publique, c'est pas possible. Eh bien, ils peuvent demander à être remboursés, voire même à être dédommagés. Ça avait déjà fait pas mal crisser des dents pendant un moment. Certains thèmes très ambigus de ce dispositif ont été un petit peu depuis justement précisés, mais l'outil reste donc une menace pour la capacité des États à réguler dans l'intérêt public et même à réguler les activités de sociétés étrangères. Ce type de règlement de différent pourrait par exemple être utilisé, je vous le disais, pour des entreprises qui voudraient contester des législations sanitaires ou environnementales et qui leur serait défavorable, en leur donnant un pouvoir disproportionné ainsi sur les politiques publiques, avec toujours la menace de « si c'est comme ça, je déménage, je remballe mon usine, et puis on... ciao bébé, quoi ». Donc voilà, le CETA, c'est en ce moment même au Sénat. On verra un petit peu plus tard ce qui se passe de la suite de cet accord.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
Ouais, on va rigoler avec cette histoire de... fertilité. Une étude qui vient d'être publiée aujourd'hui dans la revue scientifique The Lancet affirme que la fertilité décline à travers le monde, à tel point même que de nombreux pays ont des taux de natalité trop faibles pour maintenir leur niveau de population. Vous savez qu'en moyenne, il faudrait faire 2 enfants par couple. 2 personnes font 2 enfants et donc 2,1 enfants en moyenne pour que la population augmente. Si on est en dessous, justement, on voit un recul de la démographie. Cette étude alerte d'ailleurs aussi sur les déséquilibres qui s'annoncent de plus en plus marqués entre une région du monde ou l'autre. Plus de la moitié des pays observent déjà donc un taux de fertilité trop faible pour maintenir le niveau de leur population, selon ce travail qui vient d'être publié, mais ce n'est que le début. À l'avenir, les taux de fertilité vont continuer à décliner à travers le monde. Cette étude conclut que d'ici l'année 2050, 3/4 des pays auront un taux de fertilité insuffisant pour maintenir leur population en l'état. D'ici 2100 même, la plupart des pays seront concernés. Et cette étude se base, j'imagine, que sur des statistiques démographiques. Je ne sais pas si le chaos climatique éventuellement qui est prévu par d'autres chercheurs est pris en compte dans ces chiffres-là. En tout cas, les chercheurs prévoient que la population de pays pauvres, d'un autre côté, continuera, elle, à augmenter, et notamment du côté de l'Afrique subsaharienne, alors qu'elle baisse et baissera encore dans les pays développés. C'est un déséquilibre qui risque, selon eux, d'avoir des conséquences considérables sur les plans économiques et sociétal. Est-ce qu'on ne parlerait pas de grands remplacements, là, dis donc ? Cette enquête, en tout cas, elle se base sur des chiffres, les chiffres de la Fondation américaine Bill et Melinda Gates, le Global Burden of Disease, GBD. Ça va certainement générer de très jolies théories encore derrière tout ça. Cette fondation vise à réunir les données de santé de la plupart des pays. Les chercheurs ont donc utilisé ces chiffres et ont évalué donc les taux actuels de fertilité dans tous les pays, mais ils ont aussi cherché à calculer cette évolution en fonction de nombreuses variables prédictives. Alors, ils ont pris en compte les niveaux d'éducation ou la mortalité infantile, plus ou moins les taux de développement des pays. Mais je vous le disais, je ne sais pas si les déséquilibres et les désordres liés au changement climatique, par exemple, seront pris en compte ou aux ces autres recherches qui s'inquiètent justement du rôle des polluants sur notre capacité tout simplement à se reproduire, avec de plus en plus de cas de stérilité liés notamment à ces fameux polluants éternels, tous ces perturbateurs endocriniens. Visiblement, ce n'est pas des choses qui sont prises en compte dans cette étude, mais elle est déjà suffisamment alarmante comme ça. Et malgré tout, ces prévisions doivent être prises avec précaution. Ça, c'est ce que soulignent dans le même numéro les chercheurs de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Ils critiquent de leur côté plusieurs choix de méthodologie, soulignant notamment la faiblesse des données qui sont actuellement disponibles dans beaucoup de pays pauvres. Sur le fond, disent-ils, il faut privilégier la nuance et non le sensationnalisme quand on parle de la baisse des taux de fertilité, et souligne qu'un tel phénomène peut présenter des avantages en termes d'environnement ou d'alimentation. Effectivement, si la surpopulation c'est le problème, peut-être qu'une régulation naturelle de l'espèce n'est pas si dramatique que ça. Mais il souligne aussi des inconvénients, par exemple les systèmes de retraite. Effectivement, quand il y a plus de monde à la retraite que de gens qui travaillent pour alimenter le système, ça pose des problèmes. C'est un des arguments qui est au cœur des débats sur nos systèmes. Aussi du côté de l'emploi, puisque avec le vieillissement de la population qui peut aller de pair avec cette baisse de fertilité, toute la question de la prise en charge des personnes âgées et des maladies va se poser à une échelle assez phénoménale. Et surtout, les chercheurs concluent en disant qu'il n'y a pas de manière évidente d'agir dessus. Bon, si on se creuse la tête, peut-être qu'on trouvera des solutions. On part à la frontière franco-italienne avec Cédric Héroux, qui est encore dans le collimateur de la police. Il se retrouve arrêté pour infraction routière et en garde à vue. C'était hier, donc la gendarmerie l'attendait en bas de chez lui. Cet agriculteur, figure de la solidarité avec les migrants, a été placé en garde à vue car plusieurs de ses passagers étaient en situation irrégulière, d'après la préfecture des Alpes-Maritimes. Sur ses comptes X et Facebook, donc il a filmé des vidéos en direct, Cédric Héroux. On le voit assis sur la banquette arrière d'un fourgon de gendarmerie, au cœur de la vallée de la Roya, où il réside et travaille. Il s'est filmé, puis la caméra s'est fixée sur les mains menottées d'un homme assis à ses côtés. Des mains noires. Selon Nice Matin, Cédric Héroux aurait été interpellé donc en compagnie de plusieurs membres de la communauté Emmaüs. On a interpellé, on verra un peu, dit-il, on ne sait pas trop si c'est une garde à vue. Ce que c'est, on allait travailler dans les champs. Cet agriculteur de 44 ans est très connu pour son aide apportée aux étrangers en situation irrégulière qu'il accueillait chez lui auparavant. Suite à la vidéo, s'est arrêté parce qu'on lui a demandé d'éteindre son téléphone. En tout cas, sur les réseaux sociaux, sa compagne réagit à l'arrestation. Elle a évoqué donc trois compagnons Emmaüs, deux bénévoles et un salarié, donc lui-même, Cédric Héroux, qui ont été interpellés et embarqués, on ne sait où, dit-elle, par quatre voitures de gendarmes mobiles. Un message qu'a suivi en début de soirée sur le compte X de Cédric Héroux. Il explique qu'il est en garde à vue donc pour aide à la circulation irrégulière d'étrangers en France. Mais il explique que ces étrangers sont des compagnons d'Emmaüs, donc ils travaillent dans la communauté Emmaüs de la Roya, et qu'ils se sont retrouvés en détention administrative. Ils demandent évidemment dans la foulée leur libération immédiate. Alors, ils étaient ensemble à bord de cette camionnette pour aller travailler au champ, avec trois compagnons et deux bénévoles belges, stoppés par les gendarmes mobiles, je vous le disais, pour un simple contrôle d'identité à la base. Les six hommes ont été interpellés, conduits au commissariat d'Auvar, à Nice, c'est à une heure de route. Les deux bénévoles belges et un des compagnons de nationalité française ont été libérés en début de soirée, et les deux autres, dont un était gambien et l'autre mauritanien, ont été placés donc en situation de rétention administrative en vue d'une expulsion. Ils étaient effectivement en situation irrégulière, mais vivent en France depuis longtemps. Ils sont par ailleurs déclarés comme compagnons à la préfecture des Alpes-Maritimes dans le cadre d'une démarche de régularisation, puisque c'est souvent ainsi que ça se passe, notamment dans les communautés Emmaüs. L'un de ces deux compagnons vit d'ailleurs avec la communauté avec sa femme et leurs quatre enfants âgés de 5 à 11 ans, tous scolarisés dans la vallée. Dénonçant depuis des mois la multiplication de ces contrôles routiers, Cédric Héroux avait lancé la semaine dernière un appel à témoins et prévoyait justement de déposer ces jours-ci un recours devant le tribunal administratif. Il expliquait que ces mesures visaient particulièrement les personnes noires et qu'elles étaient parfois conduites d'ailleurs par des militaires, notamment une vidéo où on le voit se faire arrêter par un blindé des militaires de l'opération Sentinelle, qui, selon lui, ne sont pas habilités au contrôle d'identité. Ça, c'était une vidéo qui a eu lieu il y a une dizaine de jours. Il semble donc que la pression policière se remette sur le militant et ses soutiens, ainsi que toutes les personnes qui sont accueillies ou hébergées dans la vallée de la Roya. C'est la commune de Breil où Cédric Héroux est éleveur de poules et cultive des oliviers, et où maintenant existe donc une communauté Emmaüs, où de nombreux compagnons sont donc des personnes en attente de régularisation. Bon, c'est évidemment, vous le savez, cette zone de frontière, parce que beaucoup de migrants passent à pied la frontière entre la France et l'Italie, notamment par les pistes enneigées de la station de Montgenèvre. Et en août 2017, déjà, Cédric Héroux avait été condamné pour aide aux migrants à 4 mois de prison avec sursis. Là, je vous le disais, il est arrêté sur la base de aide à la circulation. À noter qu'à l'époque, le délit de solidarité avait joué en sa faveur. C'était le Conseil constitutionnel qui avait été saisi. Et une démarche avait abouti à une décision historique en juillet 2018, puisque le Conseil constitutionnel avait dit que la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national, et donc le principe de fraternité, était acté dans ses actes. Le Parlement avait d'ailleurs par la suite dû modifier la loi pour protéger des poursuites pénales les personnes qui prodiguaient une aide au séjour et à la circulation des migrants. Mais non, à leur entrée sur le territoire, là on est sur un cas de passage. Et c'est donc visiblement ce qui semble concerner Cédric Héroux pour celle-ci, donc à voir comment cette affaire aura ou non des répercussions ensuite au tribunal. Serait-ce la fin d'un projet de méga-église ? On est à Saint-Pierre-de-Colombier en Ardèche, je vous en avais déjà parlé dans l'année. Et un nouveau rebondissement donc, dans cette petite affaire. La préfecture de l'Ardèche a en effet suspendu ce lundi 18 mars le chantier prévu pour ce centre d'accueil pour pèlerins, une méga-église. Si vous allez voir un petit peu l'article de reporter là, qui se fait l'écho de cette lutte, et on voit les projets, en tout cas en visualisation 3D, pour ce centre d'accueil pour pèlerins. Les travaux sont donc arrêtés, pour l'instant, jusqu'à ce qu'une demande de dérogation d'espèces protégées, qui concerne la flore, donc sur les espèces végétales présentes sur le site, soit déposée et accordée. Ça, c'est la préfecture qui l'explique dans son communiqué de presse. S'il n'y a pas de dérogation, justement, pour les espèces protégées, les porteurs du projet, soit la congrégation de la famille missionnaire de Notre-Dame, devront produire une étude environnementale complémentaire qui, par exemple, indiquerait l'absence d'impact de leur projet sur le réséda de jacquin. Ça, c'est une espèce de plante à fleurs protégées, qui est donc une épine dans le pied de ce projet des cléricaux. Au mois de novembre dernier, le tribunal judiciaire de Privas en Ardèche avait déjà ordonné la suspension des travaux. C'est celle qu'on appelle la basilique de la Discorde, déchire ce village ardéchois, un village de seulement 441 habitants depuis 2018. La congrégation religieuse souhaite en effet édifier une église de 3500 places, des logements, un parking et une passerelle sur le lit de la rivière. Projet assez pharaonique, surtout comparé à le côté tout petit mignon du village. Des infrastructures donc prévues qui bétonneraient 1,5 hectare de terre et qui accueilleraient un passage énorme de touristes religieux. Ce complexe doit en effet permettre d'accueillir deux fois par an le pèlerinage des fidèles de la famille missionnaire de Notre-Dame. C'est le nom de leur équipe. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Mévilides, avait d'ailleurs fait part d'inquiétudes sérieuses au sujet de cette communauté de fanatiques religieux, on peut le dire, en 2021. D'ailleurs, les opposants ont multiplié les actions en justice, des manifestations et occupations de lieux. Et ça n'a pas été sans heurts, puisque les religieux sont aussi prêts à défendre leur projet avec le bec et ongles. Des altercations ont eu lieu, vous vous rappelez peut-être de cette vidéo d'une bonne sœur qui plaque au sol un activiste qui avait fait le tour des réseaux sociaux mettant en lumière cette lutte de manière un petit peu plus large.
Je fais what ? Mais d'où ça sort quoi ? D'où ça sort ?
Allez, pour terminer toujours avec un petit sourire, je viens de découvrir que Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, n'est pas sûr de pouvoir garantir le paiement de son amende de 464 millions de dollars, une amende dont il a écopé pour fraude. Cet ancien président et milliardaire serait en effet incapable de garantir à la justice new-yorkaise qu'il paiera donc ses 454 millions de dollars d'amende, ça fait environ 420 millions d'euros. Cette amende est attendue à la suite de sa condamnation au civil ce mois de février pour des fraudes financières au sein de son empire immobilier. Ses avocats ont reconnu tout ça ce lundi devant les médias. Bien que Trump ait fait appel du jugement, il doit quand même prouver qu'il peut payer son amende avant le 25 mars prochain, c'est dans 4 jours. C'est la date qui a été fixée par la justice américaine qui a décidé de ne pas lui faire de cadeau. Alors, comment est-ce qu'on paye à peu près 450 millions de dollars ? Bah, soit on fait un chèque, donc il faudrait qu'il signe lui-même un chèque avec le montant, soit qu'il convainque quelqu'un d'autre de payer à sa place, en échange d'intérêts, de garanties ou d'un remboursement futur. Visiblement, il n'y a personne qui a réussi à se proposer pour lui, et s'il ne parvient pas à fournir de caution pour cette amende, il devra s'acquitter de toute la somme d'ici 4 jours. Sous peine, s'il ne paye pas l'amende, de pouvoir certains de ses biens immobiliers saisis. Et là, ça commence à faire plaisir. Si on revient sur l'histoire, là, il avait donc déjà fait appel et la section d'appel de la Cour suprême new-yorkaise avait rejeté le 28 février une offre de garantie de 100 millions de dollars qu'il voulait poser sur la table, mais ils ont refusé. L'ancien président et ses deux fils adultes, puisqu'ils sont aussi dans l'histoire, avaient également fait appel de leur interdiction de diriger des entreprises dans l'État de New York pendant 3 et 2 ans, respectivement. Ce jugement retentissant qui a eu lieu le 16 février, c'est celui où le juge new-yorkais Arthur Engoron a condamné donc l'ex-président à payer 365 millions de dollars d'amende pour fraude financière et chacun de ses deux fils 4 millions de dollars chacun. La procureure générale de l'État de New York avait porté plainte déjà contre Donald Trump en octobre 2022 et elle avait contraint donc lui et ses deux fils ainsi que tout leur groupe qui s'appelle Trump Organization, les avait contraints à un procès civil pour fraude. Certainement sur qui les est l'État de New York. Le procès s'est tenu de octobre à janvier de cette année et le mania qui a fait fortune dans l'immobilier avait lui évidemment critiqué un jugement totalement bidon selon lui et avait dénigré publiquement les magistrats James et Engoron. Ils ont visiblement pas aimé l'affront sur les réseaux sociaux et ne lui ont donc pas fait de cadeau concernant cette amende. Après, quand même, l'ancien président avait estimé dans une déposition qu'il avait environ 400 millions de dollars en actifs qui pouvaient être transformés en cash, donc on y est presque, mais ça suffit pas, il manque quand même 50 millions, c'est pas une bagatelle, en tout cas même pour lui, et c'est un peu court donc par rapport à cette somme réclamée par la justice, d'autant que l'amende, elle augmente chaque jour de retard de 112 000 dollars. La solution de se faire donc prêter des sous, visiblement, c'est dans une impasse. Eh bien, je vous le disais, la justice pourrait peut-être se tourner vers ses biens immobiliers ou bancaires pour récolter la somme demandée. Et est-ce qu'un jour, Trump perdra sa Trump Tower ? Ça, j'avoue que ça serait un symbole assez puissant quand même dans cette histoire.
Des nouvelles du monde.
Bon, vu qu'il y a toute cette polémique sur Aya Nakamura, je me suis dit que j'allais passer un morceau d'elle, mais en fait, c'est un peu dur quand même. Du coup, par soutien, malgré tout, et notamment par rapport aux attaques de toutes les critiques racistes dont elle est l'objet, en ce moment, on va s'écouter un autre morceau qui vient de sortir, quelqu'un qui ne plaisante pas non plus, il s'appelle Kerry James, et c'est un peu violent, mais vous allez voir, ça reste quand même du bon sens. Allez voir le clip si jamais vous avez l'occasion. C'est donc Kerry James, je ne plaisante pas. Comme quoi, les infos, des fois, on rigole, mais c'est sérieux quand même. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien et bisous, bisous.
Je t'appelle, réponds. Je te jure, fais pas le con. J'ai entendu des rumeurs. Tu veux me faire ? Tu meurs. Et par d'une, tu meurs. Je suis pas fumeur. Je t'appelle, réponds. De l'ego qui dort, parce que le diable n'est pas mort. Je ne suis qu'un homme qui essaye d'être meilleur que la veille. Rien ne garantit que j'y parvienne. Tu m'entends? Rien ne garantit que ma raison dépasse ma haine. Tu m'entends? Rares sont les choses qui m'effraient plus que moi-même. Je suis sur le fil du rasoir. Mes pulsions font la guerre à mes devoirs. Je me sens trop proche du feu. Quand je me sens trop loin de Dieu, à deux doigts de péter les plombs. À deux doigts de faire parler le plomb. Je te connais depuis longtemps, mais tu parles trop. À deux doigts de couper les ponts. Non, à deux doigts de couper les tiens. Si tu me trahis et menaces la sûreté des miens. La vengeance, un plat qui se mange givré. À deux doigts de revenir calibré. À deux doigts de défoncer les barrières. De prendre les devants pour protéger mes arrières. La famille avant, on verra pour ma carrière. Je peux être méchant comme un truand de la galère. À deux doigts de me venger. À deux doigts de faire couler le sang. À deux doigts. À deux doigts de plonger, à deux doigts de céder à mon côté brosson, à deux doigts. l'air tout ce pourquoi j'ai œuvré. J'ai à deux doigts de me foutre en cavale, à deux doigts découper une grosse peine. Maman sait pas que ça va mal, j'suis à deux doigts de faire pleurer la tienne. J'suis à deux doigts de criser, viser, la tête brisée, tous mes projets. T'as pas idée des mauvaises pensées quand j'suis l'objet.
Depuis qu'ils ont essayé de me faire, je crois que je fais des crises d'angoisse.
Ah ouais? T'as essayé de consulter?
Moi je vais aller voir un psy, moi. Tu as vu un Renoir chez un psy?
Je ne plaisante pas, je suis à deux doigts de tirer dans le tas. Je n'hésiterai pas si je n'ai pas le choix. Il y a un même pas qui sommeille en moi. Toute ma jeunesse, j'ai défié l'État. Au nom des exclus et des païens. Que ma game si tu veux du prolétariat. Nous on parle pas au commissariat. Faut pas plaisanter avec moi. Faut pas plaisanter avec moi. Faut pas plaisanter avec moi. Faut pas rigoler avec moi. Bourrin, refus d'obtempérer. Mais fut par un fumier, pas vu, pas pris, c'était pas filmé. Il ne restera, on tient que leurs yeux pour pleurer. Chacune de nos larmes est inflammable. À deux doigts de céder à des pulsions macabres. Ils voudraient danser sur nos cadavres. 1.6 pour tuer un arabe. Le message est clair pour eux, nos vies ne valent pas cher. On a compris quand vous serez en guerre contre la Russie. Ne venez pas chercher les soldats de Tessie. Je suis à deux doigts de quitter ce pays qui n'a pour nous que du mépris. Ils n'aiment pas ce que je crois, ce que je dis, ce que je suis, mais veulent la moitié de ce que j'ai pris. Les étudiants n'ont pas de quoi bouffer, des lycées sans chauffage. Tu te demandes où t'es, pénurie d'enseignants. Mais ce qui les s'occupe, c'est de mesurer la longueur des jupes. Je suis à ton droit de quitter ce pays de Sistra, hypocrite, jaloux, aigri. Ils n'aiment pas ce que je crois, ce que je dis, ce que je suis, mais veulent la moitié de ce que j'ai pris. L'État fait rien pour soigner la fracture. Ceux qui n'ont rien paient la facture. Où sont vos requêtes? Nous on parle pas au commissariat. Faut pas plaisanter avec moi. Faut pas plaisanter avec moi. Faut pas plaisanter avec moi. Faut pas rigoler avec moi.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.